La tuberculose multirésistante et l'infection à VIH constituent deux menaces sérieuses pour le contrôle de la tuberculose dans le monde et deux défis majeurs pour l'OMS qui estimait, comme on l'a vu dans les précédents exposés, qu'en 2013, 9 millions de personnes étaient nouvellement atteintes de tuberculose et qu'au cours de cette même période, il y avait 480 000 cas de tuberculose multirésistante recensés, dont 3,5% étaient survenus chez des personnes qui avaient nouvellement présenté une tuberculose. L'OMS estimait également le nombre de personnes infectées par la tuberculose et le VIH à 1 million, ce qui représentait environ 13% des cas dépistés. Et un autre constat qui avait été réalisé était que 4 cas de co-infection TB-VIH sur 5 étaient notés dans la région africaine. La multirésistance primaire, nous le savons, est la conséquence de la transmission à un patient d'une souche bacillaire devenue multirésistante sur le sujet contaminateur. Elle est le reflet de la prévalence des sources d'infection à bacille multirésistant dans la communauté. Quant à la multirésistance secondaire qui est induite par un traitement inadéquat chez un patient infecté par une souche initialement sensible, elle résulte de la sélection et de la multiplication de bacilles mutants résistants par un traitement mal conduit. Les prévalences de la tuberculose multirésistance primaire et secondaire sont actuellement considérées comme des indicateurs de la qualité et du succès des programmes de lutte contre la tuberculose. Les taux les plus élevés de multirésistance au monde sont notifiés dans les pays à ressources faibles ou intermédiaires où vivent 90% des malades de la tuberculose de la planète. La tuberculose multirésistante représente malheureusement une charge économique importante pour les pays qui sont les plus touchés, pays qui éprouvent de réelles difficultés pour prendre en charge correctement leurs malades. Ces difficultés sont essentiellement en rapport, d'une part, avec le déficit en moyens diagnostiques de la tuberculose multirésistante, mais aussi et surtout avec l'indisponibilité habituelle des antituberculeux dits de deuxième ligne. Les taux de multirésistance chez les nouveaux cas de tuberculose dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne, les taux de multirésistance primaire demeurent supérieurs à 2%, compris entre 2,1% au Sénégal et 15% en Guinée. La situation de la multirésistance secondaire est beaucoup plus préoccupante puisque les taux de tuberculose multirésistante chez les cas traités précédemment varie entre 11% au Bénin et 50% au Burkina Faso. Une analyse beaucoup plus approfondie montre que les proportions de tuberculose multirésistante secondaire demeurent justement dans ces pays 3 à 15 fois plus élevées que les prévalences de multirésistance primaire identifiées dans les pays concernés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'association significative entre la tuberculose multirésistante et l'échec au régime de retraitement de catégorie 2 de l'OMS, qui a été confirmé par toutes les études, font que cet échec au retraitement peut être considéré comme le plus important indicateur prédictif de la tuberculose multirésistante. Il en va de même de la prévalence de l'infection en VIH chez les personnes dépistés avec une tuberculose multirésistante. Cette prévalence qui varie entre 20% au Cameroun et 24% en Côte d'Ivoire, cette prévalence justement s'inscrit dans les fréquences de prévalence élevées de la tuberculose, les fréquences de prévalence élevées, pardon, de l'infection à VIH constatées chez les patients qui présentent une tuberculose en Afrique subsaharienne et cette prévalence de l'infection à VIH chez les patients tuberculeux varie entre 24 et 31%. Un autre constat, et non des moindres, est représenté par la forte proportion de patients dépistés tuberculeux multirésistants mais non traités. Cette prévalence varie entre 36% au Sénégal dans des travaux récents et 73% en Guinée. Parmi les raisons qui permettent d'expliquer le fait que des patients dépistés tuberculeux multirésistants ne sont pas traités, eh bien, parmi ces raisons-là, il faut noter, comme dans l'étude réalisée au Sénégal, que il s'agit véritablement de patients qui sont décédés avant même l'institution du traitement de la tuberculose multirésistante. Et ceci a été souligné également dans de nombreuses études. En ce qui concerne le devenir des patients atteints de tuberculose multirésistante, une note d'espoir vient de deux études récentes qui ont été réalisées en Afrique, dont une au Sénégal et l'autre au Cameroun, qui ont montré des taux de succès thérapeutique de l'ordre de 76% avec le régime long de 24 mois de l'Organisation mondiale de la santé et de 89% avec un régime court de 12 mois qui a été expérimenté au Cameroun. Quoi qu'il en soit, ces deux études n'ont pas montré d'influence du virus de l'immunodéficience humaine sur le devenir des cas de tuberculose multirésistance traités. Alors, les constats qui sont établis en Afrique francophone au sud du Sahara sur l'association tuberculose et multirésistance et SIDA sont essentiellement au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord de la proportion élevée des cas de tuberculose multirésistante secondaire qui sont 3 à 15 fois supérieurs à celle de la multirésistance primaire. Il s'agit également de la proportion élevée de cas de tuberculose multirésistante dépistée non traitée, 36 à 73%. Il s'agit enfin de la prévalence élevée de l'infection à VIH chez les patients chez lesquels une tuberculose multirésistante a été dépistée, qui varie entre 20 et 24%. La note d'espoir vient des résultats récents des travaux qui ont été réalisés sur la tuberculose multirésistante et qui indiquent qu'avec un régime thérapeutique de 12 mois, eh bien, on peut atteindre des taux de succès thérapeutique de l'ordre de 89%. Les problèmes récurrents demeurent malheureusement ceux de l'accessibilité aux antituberculeux de deuxième ligne et surtout du financement permanent du traitement des tuberculoses multirésistantes qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, coûte excessivement cher pour les pays qui sont éprouvés. Alors, nous notons en conclusion que la prévalence élevée du VIH chez les malades de la tuberculose multirésistante est une réalité préoccupante dans la plupart des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Et cette réalité contraste fortement avec le dénuement en moyens thérapeutiques appropriés à une prise en charge adéquate des cas de tuberculose multirésistante. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire remarquer, comme le notait le professeur Vincent Jarlier lors d'une de ses interventions en 2014 sur la prise en charge de la tuberculose multirésistante, que quand le bateau prend de l'eau, on peut écoper, c'est-à-dire traiter les cas de tuberculose multirésistante et ultra-résistante. Mais il vaut mieux boucher le trou. Il vaut mieux boucher le trou. Et ceci vient nous rappeler avec beaucoup de pertinence qu'en matière de lutte contre la tuberculose, la priorité doit aller à la prévention de l'émergence de la tuberculose multirésistante. Ceci passe bien évidemment, comme l'a dit le professeur Nadia Al-Khaled, par le traitement de tous les cas contagieux d'une collectivité en appliquant des régimes corrects et en s'assurant la compliance des malades au traitement jusqu'à leur guérison. Permettez-moi à présent de passer en revue les références qui nous ont permis de confectionner cette présentation. Et je ne saurais terminer cette présentation sans adresser mes profonds remerciements à Bernard Pigérias, qui est le représentant de l'espace francophone de la SPLF auprès de l'espace francophone, mais surtout à la Société de pneumologie libanaise qui nous a permis d'effectuer ce déplacement pour participer à cette importante réunion des sociétés de pneumologie ayant en commun le français comme langue de partage. Je vous remercie.